Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons dans nos évasions profondes, au milieu des requins, pour un petit peu se changer les idées en ces temps de confinement. Alors oui, les plages sont fermées, les cinémas tout autant, et nous sommes à une époque où bien nous regardons. Avec une certaine nostalgie et une certaine envie, tous ces titres qui nous font miroiter du dépaysement, de l'aventure. Et en matière de films qui font un petit peu rêver par leur titre, nous allons avoir aujourd'hui deux films qui sont bien alléchants en apparence, mais qui, on va le voir, vont se révéler assez vite décevants à l'usage. Bon, je vous rappelle quand même un petit peu le principe de l'émission, au cas où. Nous avons tiré au sort deux films de requins, nous allons les analyser avec toute la rigueur scientifique et pédagogique qui s'impose pour en déterminer les capacités squalographiques, c'est-à-dire squalesques et cinématographiques, l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Nous allons leur attribuer à chaque fois une note de 0 à 3 points, selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis. Ce qui nous donne un total de 18, auquel nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle pour arriver à une note sur 20, de manière à reclasser le film dans une des 5 catégories, au-dessus de 16 incontournables, au-dessus de 12 bons films, au-dessus de 8 routiniers, au-dessus de 4 nuls, et en dessous de 4 c'est à fuir. Alors, qu'avons-nous au programme cette fois-ci? Eh bien, deux films qui croisent des genres assez populaires dans le cinéma d'exploitation et dans le cinéma de série B de façon générale. Puisque nous allons avoir Shark Kansas Woman Prison Massacre de Jim Wynorski en 2015, un film donc qui mêle prison des femmes et requins, et de l'autre côté Shark Exorcist de Donald Farmer sorti la même année, donc 2015, dont le titre et l'affiche sont tout un poème. Alors, prêt à jeter à l'eau?
Come on, ladies, you know the drill.
We can do this one of two ways. Slow and easy or just plain dead. Your choice.
One prisoner escaped. That still leaves 6 more passengers to cart around. It's pretty obvious this is where they change vehicles.
You gotta be kidding me.
Do you know what we're up against?
Ah ouais, on utilise carrément la bande originale de Judge Dredd de Jerry Goldsmith pour gonfler la bande-annonce. Sans scrupules, les gars, hein. Oh, je vous reconnais bien là. Shark Kansas ou une prison? Bon, c'est quoi encore? Alors, il y a des filles qui s'échappent d'une prison pour femmes, mais pendant la cavale, elles sont pourchassées par des requins, qui les dévorent les unes après les autres. Ouais. Elles sont en mini-short et elles ont des gros seins. Bon, bah ok, je signe où? Bon, je le reconnais, hein, j'ai jamais dit que mon niveau d'exigence cinématographique était super élevé. Et même là, j'arrive encore à être un peu déçu. En ce moment, c'est pas ma série. Je récolte tous les films les plus ringards du catalogue, et je vous ai pas encore parlé de Shark Exorcist. Non, parce que dit comme ça, ça pourrait le faire, hein. Pour l'amateur de série B complaisante, il y a de la prison des femmes, il y a des requins qui nagent dans les rivières et sous la terre, Tracy Lord en fliquette de choc, il y a surtout cet érotomane de Jim Wynorski à la réalisation, donc je dis, voilà quoi. Avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent, et là, il nous commet le crime le plus impardonnable qui soit pour ce genre de production calibrée. Il nous livre un film profondément ennuyeux. Il se passe rien. Ça bavarde à n'en plus finir, les morts sont hors champ, et t'as même pas un nichon. À la répression des fraudes, on appelle ça tromperie sur la marchandise. Non, sérieux, Jimmy, là, tu t'es pas foulé, hein. Nous sommes donc dans un marais de l'Arkansas, hein, même si le film a été tourné en Floride. D'ailleurs, c'est rigolo parce que depuis Summer Shark Attack, alias Ozark Shark, qu'on a traité dans l'épisode 22, on n'arrête pas de voir des films qui se passent dans l'Arkansas, hein, pour profiter de la sonorité des titres, mais sans jamais les tourner sur place. Mais bon, je m'égare. Nous sommes donc dans un bout de bayou où cinq prisonnières, accompagnées par deux gardiens, font des travaux d'intérêt généraux, à creuser dans les sous-bois en mini-short en jean et en t-shirt blanc immaculé. Parce que, une petite remarque au passage, hein, la woman prison du titre, on la verra jamais, hein, juste un petit groupe d'évadés. Et quand je vous dis évadés, c'est que la petite amie d'une des prisonnières profite de ce moment à l'extérieur pour venir donc libérer sa copine et ses co-détenus, et prendre en otage les deux gardes et se réfugier dans une petite maison isolée dans les marais. Hélas, des explosions dans une carrière voisine ouvrent une faille sur un océan souterrain et ouvrent la voie à des requins préhistoriques affamés qui, surprise, peuvent aussi se déplacer sous terre.
Mister, all I just heard was blah blah blah. Now you start making sense before my trigger finger gets itchy.
Hold on a second. Look, in 2007, scientists discovered an ocean lying 1,400 kilometers below Eastern Asia, about the size of Texas. Now, if I was a betting man, and I am, I would say the good old U.S. of A. has an underground ocean of its own.
What the hell does that have to do with what happened to Sarah and your van?
Oceans are teeming with life, including predators like sharks. Now, my fear is that Delgado may have inadvertently opened a superhighway between the Earth's surface and one of these vast underground waterways.
And while Delgado's greasing palms in Little Rock and Washington, we might be facing a prehistoric monster we haven't seen in about 40 million years.
A Shakosaurus, 13 to 20 feet long, and a natural-born killing machine, both in water and on land.
On land?
And believe me when I say, this is definitely not a fossil.
Crap on a cracker. Everybody, listen up. We are getting the hell out of here right now.
Hallelujah!
But how, that creature may be out there waiting for us. We'll figure a way. Pack your stuff!
Ceux-ci vont rapidement coincer les fuyards dans la maison, alors qu'un duo de flics enquête sur plusieurs disparitions inexpliquées dans la région. Ouais. Grosse déception quand même que ce film, hein, qui a pour lui quand même quelques atouts, des effets spéciaux étonnamment convaincants pour une production de ce calibre, avec des personnages certes caricaturaux, mais qui sont présentés de façon suffisamment nuancée pour pouvoir être attachant. Et le problème, bah, c'est que clairement le film, il a un défaut de rythme. Il s'enlise dans des phases de blabla bien trop longues pour ce qu'il a à raconter. Et puis, pour ce qui est normalement un film d'exploitation racoleur, eh ben tout ça est vraiment très prudent. Par exemple, les attaques de requins, ben on les voit pas, elles sont hors champ, jamais montrées. Un coup de vue subjectif, une attaque en accéléré, et pof, on filme ailleurs. On aura au mieux une traînée de sang, un personnage qui va se traîner avec un moignon. Mais c'est à peu près tout, le film est extraordinairement frileux en matière de scène choc. De la même façon, quand on connaît la carrière de Jim Minorski, ben, tout ça reste bien habillé. Non, parce que Jimmy, on le connaît, hein, c'est plus de 100 films au compteur depuis le début des années 80, avec minimum 3 films par an, et je vous fais grâce des titres, mais bon, une fois sur deux, il y a un jeu de mots sexy ou une fille à poil sur la jaquette, et puis, bah, son fond de commerce, c'est le nichon, c'est un peu le Russ Meyer moderne. Le mec, il nous fait des Busty Code versus le Sti Cheerleader, des Skirt Topless. Bon, ouais, c'est pas toujours fino-fino. Mais franchement, regardez-moi dans les yeux. C'est pour ça que vous regardez ces films? Oui, je dis vous, parce que moi je mange pas de ce pain-là. Waouh, vraiment une fois de temps en temps, mais juste pour vérifier si, voilà, il s'est pas un peu amélioré et tout ça, bon. Non, parce que si on les regardait pour la qualité du jeu, de l'histoire ou l'interprétation, non, bah vaut mieux regarder le papier peint. Mais bon, on aurait tort de réduire Jim Wynorski uniquement à sa carrière d'érotomane affichée. C'est aussi un spécialiste du film de bébête, avec des Komodo versus Cobra, des Piranaconda. Bon, des films qui sont rarement très très bons. On a chroniqué quelques-uns sur Nanarland. Il fait même du film pour enfants. Comme il est assez opportuniste, hein, dès qu'il y a quelque chose qui marche, là par exemple, il s'est lancé dans une série de films avec un chien, un Jack Russell, qui semble être une star sur Internet. Wynorski, c'est un film pour toi, un film pour moi avec ses producteurs. Hein. Je te fais un film bâclé, et ensuite je fais un film érotique. Mais bon, c'est un petit business qui fonctionne bien.
Is that...
Yeah, it's hers.
So what'd she do, strip down and escape in her undies?
Not if some accomplice was waiting with a new wardrobe for her.
That's not possible. One of us would have known.
Yeah, tough keeping secrets in stir, especially in escape.
How would someone from the outside have known we were going to pull over right here? I didn't even know we were going to stop till we got here.
Nevertheless, she's gone. I got to call this in immediately. Mike, take him back to the van, keep him rounded up close.
Yes, sir, boss. You heard the man, ladies. Let's get moving.
Michelle, you're bleeding, girl.
What?
Your arm is covered in blood.
How'd you get cut?
It's not me bleeding, bitches. It's this tree.
covered in blood.
Et donc notre film de requin et de prison des femmes est plutôt décevant. Alors il n'y a pas d'énormes moyens, faut pas se faire d'illusions, mais il a quand même un petit casting qui tient la route, avec Dominic Swain qu'on a vu dans Lolita. Il y a Tracy Lords dans le casting, hein, qui est une des rares à avoir réussi à passer du X au cinéma plus traditionnel et à s'être imposée comme une actrice plutôt pas mauvaise. Et là, elle a juste une espèce de rôle un peu bizarre, elle est dans un duo de flics avec un jeune flic enthousiaste, elle incarne un petit peu la professionnelle badass, et bah, ils ont leur arc de leur côté pendant tout le film, qui se croisent jamais avec le reste des personnages, si ce n'est vite fait à la fin, et c'est vraiment décevant, tout est en sous-régime constant, un peu comme s'il avait été prévu pour le câble, et que à cause des contraintes de classification, ils avaient été obligés d'être tout le temps debout sur le frein, parce que pas trop de sexe, pas trop de sang, tout est propre et poli, hein. Même les insultes, y a pas un fuck. C'est même un running gag en fait, à chaque fois qu'il y a une insanité à dire, c'est un crap on the cracker. À croire qu'on veut diffuser ces films de requins dans les salles paroissiales. Bon, reste une musique synthé assez sympa de Chuck Cyrino, un habitué des films de série B à tout petit budget, qui a offert une bande originale qui est plutôt soutenue, qui lorgne un petit peu sur les dents de la mer quand il faut, mais c'est très propre et ça se laisse écouter. Bref, on a un film sitôt vu, sitôt oublié, qu'il n'a même pas eu le droit à un bout de VF chez nous. C'est un petit peu triste tout ça, parce qu'il y avait vraiment du potentiel. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire un film assez sympa, un film assez irrévérencieux. Franchement, c'est pas avec ce film qu'on va s'évader.
All right.
Hold it right there, buddy.
Whoa, nice to meet you too. Put that away. Or don't.
What the hell are you two doing here?
Waiting on the next bus out of the swamp.
Why? What happened to your ride?
It was eaten.
Eaten?
Eaten by a monstrous prehistoric shark.
Oh my god. We gotta get out of here.
Sorry, ladies, but our van is staying put right here, and so are you. You two, come along. You got this?
Yeah.
They're kidnapping us, I know, but look at that rack.
Alors, les capacités squalographiques de Sharkansas Woman's Prison Massacre. Toujours je prenne un petit peu de temps pour dire ce titre. Alors l'originalité, c'est insuffisamment acquis. Il y a une bonne idée de départ, mais ils en font pas grand chose, faute de moyens. L'histoire, c'est non acquis. C'est non seulement incohérent, mais en plus ça fait du surplace quasiment tout le temps. Les quelques personnages qui pourraient être intéressants, n'ont pas grand chose à faire. C'est les personnages qui, eux, sont en cours d'acquisition. C'est un peu le point fort du film, tant dans le jeu des comédiens, qui se donnent quand même un petit peu, et qui sont plutôt sympas, et puis dans leur caractérisation, qui en font des personnages plutôt sympathiques. Mais les personnages qui n'ont rien à faire, donc de toute façon... L'ambiance, elle est non acquise, hein, sans lui ferme, hein, à force de ne pas développer quoi que ce soit de neuf, et à force d'empiler un petit peu des séquences convenues, on regarde ça très distraitement, surtout que comme toutes les attaques sont extérieures, toutes les péripéties arrivent hors champ, voilà... Ça n'aide pas, la réalisation elle est insuffisamment acquise, hein, c'est filmé bolasson, avec une lumière de téléfilm, avec vraiment très peu de moyens, des faux raccords assez hallucinants. On voit par exemple une camionnette qui s'engage sur un chemin en terre, le plan suivant elle est sur une route nationale. Enfin, on est vraiment sur un film qui a été fait vite fait, et sans trop d'application par un Jim Wynorski qui fait quand même ses 3 ou 4 films par an, donc de toute façon, il fait d'abord à la vitesse et au débit, et pas vraiment pour faire quelque chose qui restera dans l'histoire du cinéma. Les requins, ils sont en cours d'acquisition, ils sont plutôt bien foutus, ils ont une bonne gueule, ils ont des épines sur le dos, qui les rendent un petit peu plus méchants. Ils sont pas si mal incrustés que ça à l'image, parfois les tailles changent un petit peu et sont pas toujours très très cohérentes. On les voit peut-être pas suffisamment, mais il y a déjà ça, les requins sont honnêtes, et les effets spéciaux sont étonnamment bons pour une production de cet acabit. Ce qui nous donne, si je fais bien mon compte, un résultat de 6... Je rajouterai un demi-point, parce qu'il y a quelques scènes qui m'ont arraché des sourires, et puis parce qu'on sent quand même qu'il y a une bonne ambiance générale, et que tout le monde a l'air de s'amuser à faire ce qu'il fait. Mais enfin bon, ça va pas casser 3 pattes à un requin, et au final, on se retrouve avec une proposition bien décevante. On avait de quoi faire un film vraiment rigolo, surtout quand on connaît les antécédents de Jim Wynorski, que ce soit dans La Gaudriole ou que ce soit dans Le Gore à Bébête, et on se retrouve avec un produit qui pourrait passer sur Gulli tellement il est soft. Le demi-point, je me demande aussi si c'est parce que je me suis pas enquillé juste après Shark Exorcist, et que là vraiment ça a été la souffrance.
Thank you.
Shark Exorcist. Bon, quand tu lances un film et que tu vois qu'au total il dure 1h10, tu sais que tu vas pas avoir Citizen Kane. Bon, vous allez me dire, c'est pas un critère le premier promoteur s'il atteignait à peine 1h19 et il est premier du classement. Néanmoins, 9 fois sur 10, dans ce genre de petit film, c'est déjà un indice révélateur. Et puis, dans les petits budgets, il y a un axiome fondamental. La qualité du film est souvent inversement proportionnelle au clinquant de l'affiche. Et là, je peux vous dire que la jaquette, elle défonce sa mère avec un requin quasiment en feu, géant, qui jaillit de l'eau avec des yeux incandescents, face à un prêtre crucifié en main, qui s'incarne comme une sorte d'ultime rempart. Non, je préfère vous prévenir, hein. Dit comme ça, ça a l'air de le faire, mais bon, une fois le bousin en route, vous allez dessouler très vite. Non, parce que là, on arrive vraiment à racler sous le plancher en matière d'opportunisme et de nullité. Et pourtant, à la base, rien qu'au titre, on se dit, on doit pouvoir toucher le concept sympa, en croisant le film de possession et le film de requin, il y a idée, il y a concept. Mais en fait, faudrait déjà qu'il y ait une histoire, faudrait déjà qu'il y ait un scénar, faudrait déjà qu'il y ait quelque chose à raconter. Parce que, tel que je vous explique un peu les choses, je tourne consciencieusement autour du pot pour ne pas avoir à vous raconter le scénar. Et objectivement, je suis bien en peine de le faire, parce que le film ne le fait pas lui-même. Alors, on a en gros, pour faire simple, une nonne un peu folle, qui prie Satan, qui assassine une fille, la jette à l'eau, ce qui semblerait la transformer en requin diabolique. Requin diabolique qui semble prendre le contrôle d'une nageuse dans un petit lac du Tennessee. Une nageuse qui ensuite va aller errer de ci de là pour se mettre à croquer les gens de passage. Elle est d'ailleurs nantie d'un dentier assez dégueulasse. Et ce qui semble attirer un prêtre exorciste dont le frère a été tué par un requin, qui va se mettre à la pourchasser avec la meilleure amie de la nageuse pour pratiquer un exorcisme. Enfin, ça a l'air d'être ce qui se passe à l'écran, parce que pendant ce temps-là, on a des journalistes internet spécialisés dans les mystères, les fantômes et les requins qui rôdent, qui se livrent une espèce de petite guerre d'audience qu'on comprend pas trop. On a des scènes de possession random dans des cimetières qui jaillissent comme des pop-up sur votre écran d'ordinateur après avoir traîné sur des sites sur lesquels vous auriez pas dû traîner. Bref, il se passe tout un tas de trucs qu'on aurait vraiment du mal à expliquer, et en plus le film, il se finit au bout de 50 minutes. La question de l'exorcisme de la femme possédée par un requin démon, après qu'enfin notre exorciste du titre ait réussi à en faire quelque chose, on se dit, c'est résolu. Speaking to the demon who possesses this woman. Demon, do you hear me? I order you to cease your evil and corruption. Demon, be gone!
We're gonna need a bigger cross.
Emily, stay back.
What are you gonna do?
I'm going to perform the holy rite of exorcism. It's the only way to save your friend.
Do you know how to perform an exorcism?
Not exactly.
What does not exactly mean?
I've read the sacred texts and the prescribed procedures for casting out demons, but...
But you've never actually performed one before?
What kind of demon are you? Why are you torturing this innocent woman?
Hurry, it's gonna kill her!
Why should I priest? I like it here.
Why are you torturing this woman? Leave her now!
She likes it, priest. She begs for me. I can feel her body fill with every inch of my poison. I will destroy her.
Hurry, help her!
Only one thing can stop me.
So you can be stopped?
Of course. She's leaving now.
Mais bon, comme on est qu'au bout de 50 minutes, on nous rajoute une longue scène avec un voyeur qui prend des photos d'une fille qui met des plombes à se foutre en maillot de bain, pour finir poignardée par la nonne sanglante jaillie de nulle part qui se fait tuer à son tour par une fille qui jaillit de l'eau, et puis comme ça ne fait que rajouter 10 minutes, on a le générique. Et puis ça fait pas assez pour être vendu comme un long métrage, donc on nous rajoute une autre scène de 8 minutes qui sert à rien, où une autre gonzesse visite un aquarium et finit par tomber en transe devant des requins en peluche dans le magasin de jouets. Non mais, à un moment, je me suis dit, faut plus lutter, faut abattre ce film, il souffre, il a des spasmes. Non, il y a un moment, j'en viens presque à vouloir m'excuser auprès de Brett Kelly ou de David DeCoteau pour avoir critiqué leur film. Eux au moins, ils ont un semblant de scénario, ils ont un semblant de logique interne. Là non. Là, y a rien. Il y a des scènes qui sont jetées les unes à côté des autres dans le plus grand désordre au fur et à mesure des possibilités de tournage, puisque je suis à peu près sûr que c'est ça. Donald Farmer, le réalisateur, il a pris son caméscope, et puis le week-end, avec quelques copains et quelques copines, bah, il a tourné des scènes un peu au hasard, probablement pour différents films, et il les a collées bout à bout façon marabout de ficelle pour construire cet échafaudage qui tient pas debout. Et pourtant, Donald Farmer en question, c'est un gars qui est du milieu depuis les années 70. Il a tourné tout plein de trucs dans tous les genres d'exploitation avec très peu de budget, hein. Des Vampire Cop, des Demon Queens, des Neurotic Vampire in Paris. Et contrairement à Wynorski dont j'ai parlé dans le film précédent, lui, il est toujours resté dans le petit film fauché, il est jamais monté en gamme. Alors il a eu un genre de gros hiatus entre 2008 et 2015, où il a quasiment pas touché la caméra, puis là il est revenu, et je le soupçonne d'être revenu en semi-amateur. Tourner des films dans son coin, alors que précédemment, il bossait quand même au minimum pour des tout petits studios. Parce que depuis ce film, ça y est, il est reparti pour faire ses 2 ou 3 films par an. Quoique, tu me diras, quand tu tournes comme ça, tu peux même en faire 2 ou 3 par mois. Pour le reste, bah c'est quelqu'un qui a toujours fait son petit sillon, qui a l'air d'être un petit peu passionné par le cinéma d'exploitation traditionnel, les films des années 70, mais gros, qui tourne pour 30 000 $. Et encore, 30 000 $, c'est le budget théorique du film, hein. Les 30 000 $, je les ai pas vus à l'écran, j'ai même pas vu 3 000 $ à l'écran. Alors. Non, franchement, là, rien ne va. Les attaques du requin. Alors, le requin, c'est une scène numérique, hein, plutôt chiadée, qui a dû être reprise très certainement d'une banque d'images. C'est toujours la même qu'on voit. Au mieux, il va la changer de sens, ou il va la mettre dans un halo lumineux pour nous faire croire que c'est une nouvelle image, mais c'est tout. Et puis, même les attaques du requin numérique et les comédiens sont pas raccordés. Alors déjà que les comédiens sont quand même pas géniaux. L'image, par exemple la fille du début qui se fait attaquer par le requin, on la voit commencer à se débattre dans l'eau, comme si elle était donc agressée par le requin, et seulement après, on voit le requin qui s'approche d'elle. Non mais, n'importe quoi. Les terribles blessures, c'est un peu de sang et des traces de ketchup sur la jambe. Alors comme souvent dans ce genre de film, ce qui pêche le plus, c'est le rythme. Il y a de longues plages où les acteurs se baladent ou discutent de choses inintéressantes. Et, les parts sont pas professionnelles, je le rappelle, mais à tel point que même pour une simple scène où ils sont censés s'éclabousser, ils jouent faux. Non, et puis, il n'y a pas que les comédiens. Hein. Le son est parfois en prise directe. On entend le vent sur les micros lors de certaines scènes en extérieur. C'est bien simple, le son était tellement pourri que je me croyais dans un podcast Nanarland.
On our last episode, I attempted to make a psychic connection with those who've died here. But what I channeled was something far more evil. I believe there is a demonic force right here. Something filled with pure evil. If there is a shark here, I believe it's possessed. Possessed by a demon.
Bullshit!
Who the fuck said that? I'm Brianna Bennett from Ghost Fakers, and I've been on these shark attacks since they first started, and that's just what they are, shark attacks. No ghosts and no demons. She's just trying to terrify people for the sake of ratings.
Anyways, back to me. Miss Bennett, I'm a serious paranormal investigator. I created a psychic link right here in this lake, and it is something demonic.
I want you to take a good look out there. It's just a lake. There might be a shark out there, but it's definitely not possessed by the devil with tiny red horns and a pitchfork. Now why don't you let the real journalists do their job and stop trying to sensationalize these tragic deaths?
Non bah voilà, je peux décemment pas vous conseiller ce truc. Il est pourtant vendu en DVD sur Amazon à quasiment 20 $. Et alors même, j'ai vu un coffret triple film avec, tenez-vous bien, Sharkenstein de Polonia. Raiders of the Lost Shark de Brett Kelly et notre Shark Exorcist. Alors si vous achetez ça et que vous les voyez dans la foulée, je préfère vous prévenir.
Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours.
Please tell me what's wrong.
You don't want to know.
Yes, yes I really do.
Forgive me.
Bon, les capacités squalographiques de Shark Exorcist. Alors, l'originalité, c'est insuffisamment acquis. Y a le titre. C'est tout. Bah, y a un concept, pourtant. Vous mêlez le film de possession démoniaque et le film de requin. Y a quelque chose à en faire. Pas qu'il faut forcément le faire. Mais si on se pose 5 minutes et qu'on y réfléchit, y a un truc. L'histoire, bah non acquis. C'est un empilement de scènes qui ont probablement été tournées pour faire des films différents, qui sont collées les unes aux autres avec des personnages qui se croient jamais, bah, tournées de ci de là, un coin cimetière au bord de la mer, dans une réplique du Parthénon qui se situe en plein cœur du Tennessee. Une
découvert que ça existait, ça. Les personnages, n'en parlons pas, Nanaki, hein, non seulement il n'y a pas de caractérisation, mais c'est joué par des patates sur pattes. L'ambiance, Nanaki, il se passe rien. Même quand il y a des scènes de tension, on s'ennuie. C'est long, c'est étiré au possible pour arriver à 1h10, mais en temps de film ressenti, on est à 3h30. La réalisation Nanaki, quand on en est encore, au bout de 25 ans de carrière, à entendre le bruit du vent sur les micros, à avoir une image qui tremblote, qui est pas cadrée, ou des couleurs qui sont dégueulasses ou baveuses, y a tout à revoir. Le requin, il est non acquis, on le voit une fois, l'image est pas mal, mais comme c'est toujours la même, qu'elle a probablement, comme je le disais, été récupérée sur un autre projet, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Le résultat, c'est que ça vaut 1. À titre personnel, je me suis profondément ennuyé devant ce film. Je lui retire un demi-point, allez, je vais pas décemment vous laisser regarder un truc pareil, je mets pas 0 à cause de la musique qui est plutôt convenable, et qui est signée d'un certain Denny Proffer qui nous sort quelques musiques plutôt sympatoches, au synthé, avec faible moyen, mais le gars il bosse dans le petit budget, il sauve les meubles, et puis aussi à cause de l'affiche, j'aurais pu être beaucoup plus méchant. Donc on est à 0,5 sur 20, on est à égalité avec Psycho Shark, avec le plus mauvais film que nous avons vu de toute l'histoire de Shark Parade. C'est à fuir. Et objectivement, je pensais pas dire ça un jour, mais franchement, je préfère revoir un Brett Kelly ou un Mark Polonia que de me tirer un autre Donald Farmer, hein. En tout cas, sur ses productions actuelles. La vache, Donald Farmer, sois maudit. Ta mère mange du plancton en enfer. Bon, voilà pour cette semaine. J'ai probablement fait plus court parce qu'il fait vraiment des films où il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est de se tenir la tête et d'être exaspéré. Alors, on va essayer, je reprends ma boîte à requins et je tire des nouveaux films pour la prochaine fois. Alors avec Shark Week, un film de Christopher Ray de 2012, une production The Asylum. Une réputation assez mitigée. On verra bien ça, de toute façon, est-ce que ça peut être pire que ce que j'ai tiré aujourd'hui? Et ensuite, hop. Aha, Up from the Depths, un film de 1979 de Charles Griffiths, une production Corman, tournée, je crois, aux Philippines. Ah, ça peut être rigolo, ça. Bon, une petite recommandation vite fait, j'ai découvert les podcasts de Fazkill, un journaliste spécialisé musique, alors je connaissais déjà les Démons du Midi autour de la musique de jeux vidéo, mais il a fait tout un tas d'autres podcasts extrêmement intéressants, dont le Discographe, qui revient sur des groupes des années 80 à nos jours, pas toujours très connus, et qui nous sort des mixtapes vraiment très sympas, hein, aussi bien en ambiance que sur les EP des années 80-90, sélection musicale que j'aime particulièrement. Donc voilà, je vous conseille un petit peu de jeter une oreille sur tout ce qu'il fait, c'est vraiment très bien, en plus il a une pure voix de radio, c'est vraiment du tout bon. Sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors sur les podcasts Netherland, on a pas mal bossé, ce qui explique aussi que j'ai pris un petit peu plus de temps pour cette émission, c'est que on a enregistré toute une série de podcasts Netherland dernièrement, il y en a un qui est sorti sur Cats, et on est en train de pas mal travailler, notamment sur le site, donc Netherland, il va y avoir plein de choses qui vont arriver, restez à l'écoute, ça va être très classe. On se retrouve aussi sur Twitter, @ultimetrico. Alors j'étais un petit peu moins là ces derniers temps parce que j'étais pas mal occupé notamment sur surtout Nanarland. Mais ne vous inquiétez pas, je continue à mettre des petites choses et des petites bêtises de temps en temps. Voilà, on se retrouve environ dans 3 semaines. On aura, je l'espère, terminé le confinement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, en commençant par la santé. Et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.